Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des terrasses du ciel. Je reprends aujourd'hui la lecture de Po Kuyi, l'ermite du mont parfumé, un homme sans affaires, publié aux éditions Mundaren. Po Kuyi, c'est ce très grand poète chinois qui naquit en 772 à Xincheng dans le Henan d'une famille de mandarins et qui fit carrière on va dire dans la fonction publique, en tout cas auprès de l'empereur. Nous avons quitté Po Kuyi en l'an 820, alors qu'un nouvel empereur succède à Xianzong qui meurt soudainement. C'est Mutsung qui, d'ailleurs, dès qu'il est nommé, fait rappeler l'ami de Po Kuyi, Wan Shen, à la cour. Et puis Po Kuyi qui est à son tour convoqué à la capitale. Il a maintenant 49 ans, on lui confère le titre de pilier supérieur de la nation et il reprend ses fonctions de rédaction des décrets impériaux. Ce poste lui donne beaucoup de travail, il a notamment à traiter une grande quantité de papiers officiels, il lui arrive souvent de travailler la nuit au palais. Il achète une maison dans l'allée Xincheng, près des murailles à l'est de la ville. La famille Po vit maintenant dans l'aisance. Po Kuyi mène une vie conviviale, joyeuse. Au début de l'année 822, Yuan Shen est nommé grand ministre, mais 4 mois plus tard, il est évincé. C'est très rapide, vous savez, à l'époque en Chine, on peut être en état de grâce du jour au lendemain et puis le surlendemain se retrouver en disgrâce. C'est comme ça. Mais en tout cas, il est tout de même l'ami Yuan Shen, nommé gouverneur de Tungchou au nord-est de la capitale. La vie politique à cette époque est de plus en plus agitée. Les intrigues n'en finissent pas et là, de cette ambiance frelatée, Po Kuyi demande sa mutation en province. À l'automne 822, il est nommé gouverneur de Hangzhou, aussi appelé Changtang, la prestigieuse et élégante cité de l'Est au bord du lac de l'Ouest et du fleuve Changtang. Avec sa famille, Po Kuyi quitte Chang'an et à bord d'une jonque descend le fleuve Han, puis le long fleuve. Il écrit « Le soleil est haut, la lucarne sur l'eau est fermée, je dors encore, l'oreiller et la natte sont frais, un temps du 8e mois ». Parfois nous amarrons près d'une échoppe de vin, souvent nous passons la nuit à côté des pêcheurs sur leur barque. Je me retire vers le fleuve et la mer, je suis sans doute sans utilité pour se soucier du pays. Il y a la cour beaucoup de sages, je préfère aller sur le lac de Changtang, fredonner oisivement et m'énivrer à ma guise pendant 2 ou 3 années, car à l'époque, les poètes, notamment les poètes taoïstes, s'adonnaient volontiers à l'ivresse. Po Kuyi arrive à Hangzhou au milieu de l'automne 822, il a 50 ans. Au début de l'hiver, pendant quelques jours, il retrouve Yuan Shen, qui vient d'être nommé à Yuezhou, un peu plus à l'est. À Hangzhou, il s'occupe particulièrement des problèmes d'irrigation et de réserves d'eau potable. Il fait draguer les 6 puits réservoirs de la ville et construire une digue de retenue sur le lac de l'Ouest, la célèbre digue de Po, qui, outre son intérêt paysager pour le promeneur, permet d'irriguer les champs alentours. Po Kuyi fréquente les officiels en retraite, notamment Xia Yue, le fameux peintre de bambou. Dès qu'il en a le loisir, il va se promener dans les montagnes environnantes où se trouvent de nombreux temples et monastères taoïstes et bouddhistes. Au sud-ouest du temple Ling Yin, il découvre un endroit enchanteur, le kiosque de la fontaine froide où il aime aller se délasser. par une journée de printemps. J'y aime l'odeur des herbes et des arbres luxuriants. Elle conduit à l'harmonie, concentre l'énergie, fait circuler le sang et le souffle. Par une nuit d'été, j'y aime le calme de la fontaine et la fraîcheur du vent. Ils chassent les soucis, soignent le mal aux cheveux et réjouissent le cœur. Les arbres de la montagne servent de toit, la falaise rocheuse de paravent, les nuages naissent au bout des poutres, l'eau arrive à ras du perron. Celui qui s'assoit pour en jouir, de son siège peut se rincer les pieds. Celui qui s'allonge pour être à son aise, de son chevet peut pêcher à la ligne. L'eau coule lentement, propre, claire, recueillant la fraîcheur et la douceur. Gens vulgaires ou hommes du Tao, dès qu'on la voit, la poussière des yeux et des oreilles et la souillure du cœur et de la langue, sans les laver ni les rincer, sont aussitôt éliminées. Voilà ce que nous dit Pokuyi de ce fameux kiosque de la fontaine froide où il va volontiers se délasser quand son emploi du temps le lui permet. À la fin de l'été 824, 2 ans après son arrivée, Pokuyi est rappelé à Chang'an et il est nommé secrétaire du prince héritier. Pokuyi quitte Hangzhou pour se rendre d'abord à Luoyang, où il achète une maison pour passer ses vieux jours. Pokuyi écrit au grand ministre Niu Zhengyu, qui est un de ses amis, lui demandant d'être détaché à Luoyang, la deuxième capitale, pour sa fonction de secrétaire du prince héritier, comme cela a toujours été la pratique naguère quand la cour avait l'habitude de venir résider temporairement à Luoyang. Sa demande est acceptée. Luoyang a perdu son lustre d'antan. Elle ne s'est pas relevée de la rébellion d'An Luchan en 755 et en porte encore les marques. Mais avec son charme un peu désuet, la vie est très plaisante pour un poète et bien plus calme qu'à Chang'an. La maison de Pokuyi se trouve au sud-est de la ville, dans l'allée Li Tao. Elle est sise dans un petit parc avec un étang, dans un endroit magnifiquement simple et idéalement tranquille d'où contempler le monde. À la fin de l'année 824, dans la préface au premier recueil des poèmes de Pokuyi, son ami Wan Chen écrit que les poèmes de Po jouissent d'une immense popularité. Ils, dit-il, ils sont inscrits partout, sur les murs des palais, des temples bouddhistes et taoïstes et des relais. Tout le monde les récite, princes et dignitaires, épouses et concubines, bouviers et palefreniers. Ils sont recopiés et vendus sur les marchés ou échangés contre du vin ou du thé. Jamais depuis que la littérature existe, une telle renommée n'a dû se répandre aussi vite. Au printemps 825, Pokuyi est nommé gouverneur de Suzhou, la ville des canaux et des jardins, au bord du grand lac, non loin de la mer de Chine. À Suzhou, il est accablé de travail et parvient tout de même de temps à autre à s'échapper au temple Ling Yan, c'est à l'ouest de Suzhou, ce temple qui domine le lac Tai, surnommé le Grand Lac. Haute la lune immaculée au-dessus de la forêt bleue. Les visiteurs partis, les moines ont regagné leurs cellules. Je suis seul dans la nuit profonde. De viande et de sang je m'abstiens, mais il me reste le vin. chants et cloches sont proscrits. J'ai juste mon kin, nul objet vulgaire devant mes yeux. Seul le murmure de la source, il me rince le cœur. J'aime contempler à l'aube le paysage à l'est du kiosque. Sur le grand lac, la brume se mélange à l'eau d'un vert profond. Au printemps 826, Pokuyi tombe malade. Il souffre de cataracte et d'asthme. Ses responsabilités officielles lui pèsent de plus en plus. Il a envie de se retirer dans sa maison de Luoyang. Il demande un congé de 100 jours pour raison de santé, puis au début de l'hiver, démissionne de son poste de gouverneur. Il quitte Suzhou en compagnie de son ami, le poète Liu Yuxi, qui retourne à Chang'an, son mandat de gouverneur de Huzhou étant arrivé à son terme. Ils se sont connus tous les deux à Chang'an 5 années plus tôt. Ils ont le même âge, 54 ans. Pendant 2 semaines, ils se promènent ensemble dans la région de Yangzhou et de l'estuaire du long fleuve, puis Pokuyi remonte vers Luoyang. De retour dans sa maison de Luoyang, Pokuyi apprend la mort de son frère Tsingchen et recueille sa veuve et ses enfants. La famille à sa charge étant maintenant nombreuse, il est contraint de solliciter un nouveau poste. À contre-cœur, il quitte son jardin de Luoyang et retourne à Chang'an où il est nommé directeur de la bibliothèque impériale dont il avait été un humble collateur 25 années auparavant au début de sa carrière. Au début de l'année 828, Pokuyi est nommé vice-président du bureau de la justice. Chargé d'une mission à Luoyang, il en profite pour faire un tour à Xingyang, son village natal. Puis la vie politique à Chang'an est de plus en plus confuse, les rivalités de cliques s'aggravent. Pokuyi, qui s'est toujours gardé d'appartenir à tel ou tel clique, lassé par les querelles puériles, démissionne de son poste et demande sa mutation à Luoyang à un poste détaché. En 829, il est à nouveau nommé secrétaire du prince héritier en service détaché à Luoyang. Comme le prince héritier ne vient jamais à Luoyang, il n'a pratiquement rien à faire et vit en semi-retraite. Il peut enfin profiter de son jardin avec ses bambous, ses rochers, son étang, ses lotus blancs et ses 2 grues qui savent danser. Au bord de l'étang, après la pluie, le paysage est très limpide. Il fait frais sous le pont, le bon vent abonde. C'est l'automne, dans la barque avec mes 2 grues. Au profond de la nuit, elle m'accompagne sous la lune claire. Le temps passe. À 67 ans, Pokuyi compose sa propre biographie. Puis, au printemps 839, il envoie à la bibliothèque du temple zen du sud à Suzhou 67 rouleaux de ses poèmes et essais. Au début de l'hiver, il est victime d'une attaque de paralysie qui touche sa jambe gauche. Il a 67 ans. Pokuyi vend son cheval et se résout à se séparer de Fan Su, surnommée Rameau de Saule, une jeune courtisane musicienne qui l'accompagnait depuis 10 années. Il remet à la bibliothèque du temple du Mont Parfumé un recueil des poèmes qu'il a composés à Luoyang pendant les 11 dernières années. Sa santé, ma foi, se rétablit petit à petit. Il fréquente beaucoup son ami poète Liu Yuxi, du même âge que lui. Il se retrouve souvent pour boire, discuter et composer des poèmes. En 841, Pokuyi rend visite au temple de la lumière du Bouddha, au Tsangchan, la montagne sacrée du centre, au sud-est de Luoyang, à son vieil ami le maître zen Niu Meng de 20 ans, son aîné, disciple du célèbre maître Matsu. Niu Meng lui confère le titre de maître zen. Pokuyi s'inscrit donc dans la lignée de l'école zen du sud comme disciple à la 2e génération de Matsu. Le jour où ils se séparent, Pokuyi compose ce poème. Dans la montagne, adieu au moine du temple de la lumière du Bouddha. Le maître en personne se dérange pour me raccompagner. Nous descendons la montagne en marchant. Qui peut comprendre notre sentiment d'adieu? J'ai 70 ans, le maître 90. Nous savons que notre prochaine rencontre sera dans une autre vie. La même année, comme c'est la règle à 70 ans, Pokuyi prend sa retraite officielle avec le titre honorifique de président du bureau de la justice, bénéficiant d'un revenu correspondant à un peu moins de la moitié de son ancien salaire. Plus que jamais, il est content de son sort parce qu'il sait s'en contenter. Plus que jamais, il est Lo Tien, celui qui jouit du ciel. Au début de l'automne 842 meurt son cher ami Liu Yuxi, né la même année que lui, le compagnon de vin et de poésie de ses vieilles années. Maintenant qu'il vit retiré, Pokuyi observe de longues périodes de méditation et de jeûne, suivant un régime végétarien sans vin, il faut le noter. Au printemps 844, ressentant une sorte de plénitude, il sort souvent se promener et ne manque pas une occasion de participer à un banquet. Il se rend au village de Chao, dans les faubourgs à l'est de Luoyang, célèbre pour ses milliers d'abricotiers. Et là, il boit avec des convives. Et puis, au cœur de l'automne 846, Pokuyi compose ses tout derniers poèmes. Quelque temps plus tard, à l'automne, dans sa maison de Luoyang, à l'âge de 75 ans, se termine le séjour de Pokuyi dans ce monde flottant. Selon son vœu, il est enterré auprès de son ami le maître zen Yu Meng au temple du Mont Parfumé. Dans les recueils de ses poèmes et essais qu'il a adressés au temple de la forêt de l'Est au Lushan, au temple zen du Sud à Satcho, Pokuyi a joint la prière suivante: « Que les écrits mondains de ma présente incarnation, tout ce bavardage frivole et ces belles phrases se transforment en une célébration de l'enseignement du Bouddha pour les générations et les générations à venir, contribuant ainsi à faire tourner la roue de la loi. » Pour finir cette émission consacrée au poète chinois Pokuyi, je vous propose un choix de poèmes. Vous pourrez donc retrouver le texte que je vous ai lu, plus les poèmes, dans ce livre publié aux éditions Mundaren, Pokuyi, l'ermite du mont parfumé. Goûtant le vin nouveau. Le ventre vide, je goûte le vin nouveau. De façon inattendue pour un matin, me voilà ivre. Ivre, je m'enveloppe dans un manteau en fourrure et m'endors jusqu'à mon repas de légumes. Un sommeil profond, sans parler ni rire, un vrai repos, sans rêve, j'oublie presque mon corps. Comment savoir si j'appartiens encore au ciel et à la terre? Au réveil, les traces du vin ne se sont pas encore dissipées. Je me lève, m'assois tranquillement, je n'ai rien de spécial à faire, j'étends les bras et m'étire, je sors mon kin et me mets à jouer Sentiment d'automne. Au temple du dragon bleu, début de l'été. Plus aucune poussière après la petite pluie. Cet endroit est sur une hauteur, à flanc de colline, Le soleil se couche derrière la porte du temple. Le paysage est imprégné de clarté et de paix. Oisif, un vieux moine se tient là debout. Une telle quiétude, nul visiteur vulgaire ne vient troubler. Les loriots ont pris de l'âge, ils manquent d'inspiration. Les nouvelles feuilles sont abondantes, leur ombrage frais. Le printemps n'est parti que depuis quelques jours. Déjà les nuages d'été s'amoncellent. De jour en jour, je deviens plus sensible aux changements de saison. Les années ont fait grisonner mes tempes. Pourquoi rester encore attaché au pouvoir et à la richesse? Au lieu de retourner, au milieu des brumes et des lianes, cultiver un arpent de terre sur la montagne bleue. Seul, j'interroge mon cœur. Réparant le pavillon au bord de l'étang. Sur l'étang la lune. La nuit est froide. Sur l'étang le vent de l'aube si aosa. Sur l'étang ce sera bientôt l'hiver. D'abord je répare le pavillon au bord de l'étang. J'ai fait ouvrir une fenêtre sur le côté chaud. Pour affronter le froid, j'ai fait installer des tentures. La mousse couvre les vieilles tuiles et les lattes de bois. L'eau reflète la nouvelle lac vermillon, un feu doux dans le poêle profond en terre, du vin parfumé dans le petit pichet en porcelaine, au milieu, seul, le vieil homme, face au lit, une lampe. Le vent d'ouest. Depuis combien de jours souffle le vent d'ouest? Les premières feuilles se sont déjà envolées. Une éclaircie, je porte des sabots légers. Le début de la fraîcheur, j'ai mis des vêtements chauds. Dans la rigole peu profonde, l'eau s'écoule lentement. À travers les bambous épars filtrent les rayons du soleil couchant. Le crépuscule tombe dans l'allée couverte de mousse verte. Le garçon de service rentre avec mes deux grues. Paresseux, incapable de rien faire. Ce n'est pas que l'étagère soit dépourvue de livres, mais mes yeux paresseux ne veulent pas lire. Dans son coffret, il y a aussi mon kin, mais ma main paresseuse ne veut pas en jouer. Ma taille est paresseuse, impossible d'attacher ma ceinture. Ma tête est paresseuse, impossible de mettre mon bonnet. L'après-midi, je dors tout mon sou. À midi, je mange à ma guise. Un repas me rassasie pour toute la journée. Un somme me repose pour toute la nuit. La faim et le froid sont choses courantes. Pourtant, je n'ai ni faim ni froid. Échappant à la chaleur. Comment échapper à la chaleur accablante? En séjournant sagement dans le pavillon. Devant les yeux, aucun objet futile. Sous la fenêtre, le vent frais. Quand le cœur est tranquille, la chaleur se dissipe. Quand la pièce est vide, la fraîcheur naît. À ce moment-là, mon corps est vraiment à l'aise. Impossible de partager cela avec quelqu'un d'autre. Me lamentant sur mes cheveux qui tombent. Le matin, je me lamente déjà sur mes cheveux qui tombent. Le soir, je me lamente encore sur mes cheveux qui tombent. Ils tombent tous, il y a vraiment de quoi me lamenter. Quand ils seront tous tombés, au fond, ce ne sera peut-être pas aussi mal que ça. D'abord, je n'aurai plus à me fatiguer à les laver, plus à me donner la peine de les coiffer. Le plus agréable doit être, quand le temps est torride et humide, d'avoir la tête légère sans le poids du chignon. J'ai déjà enlevé et rangé mon couvre-chef crasseux et défait le cordon de mon bonnet poussiéreux. Le vase en argent est rempli d'eau de la source fraîche. J'en renverse une louche juste au-dessus de mon crâne. Je suis comme arrosé par la sagesse bouddhiste. Je m'assois pour jouir de cette fraîche joie. Je comprends pourquoi les moines sont si à l'aise. C'est parce qu'ils ont le crâne rasé. Dormant paisiblement, allongé sur le côté, sur le lit chaud, le soleil réchauffe ma taille. Un somme paisible guérit sans maladie. Toute la journée, un seul repas et deux bols de thé. Je n'ai besoin de rien de plus jusqu'à demain. Me levant tard et marchant oisivement. Le vieillard à la tête blanche, enveloppé dans un manteau, est accoudé à la table basse. La nuit, assis en méditation, j'oublie de dormir. Le jour, allongé confortablement, je ne me lève pas. Debout, je n'ai rien à faire. Je ferme les yeux et, de temps à autre, claque les dents. Au calme, face à la fumée du brûlant sens en bronze, je me gargarise avec l'eau tiède d'une cruche en argent. Le repas de midi est simple et frugal. Une galette et des légumes, c'est à peu près tout. Au temple à l'ouest, on commence le sutra Lankavatara. Oisif, je m'y rends, à ma guise. Et puis ce dernier poème, le matin, buvant. Le paravent court abrite mon chevet. Un bonnet noir, une vieille couverture bleue en laine, un manteau blanc en fourrure. Le matin, je bois une coupe et fais un somme. Les affaires de ce monde sont insignifiantes. Pokuyi, l'ermite du Mont Parfumé, aux éditions Mundaren. À très bientôt.